Question. Quel est le rapport entre le passé et l'avenir? Réponse. Lorsque tu connais le passé, tu peux mieux connaître tous tes futurs possibles. Tu es venu me rencontrer en me demandant de mieux faire fonctionner ta vie. Il te serait utile de savoir comment tu es arrivé à ton état actuel. Je te parlerai du pouvoir et de la force, et de la différence entre les deux. Et je t'entretiendrai de ce personnage, de Satan, que vous avez inventé, des raisons et de l'origine de son invention, et de la façon dont vous en êtes venu à croire que votre Dieu était masculin et non féminin. Je te parlerai de qui je suis vraiment, plutôt que de la façon dont vous me décrivez dans vos mythologies. Je te parlerai de mon état d'être, d'une telle façon que tu remplaceras avec joie la mythologie par la cosmologie, la véritable cosmologie de l'univers et sa relation avec moi. Je te ferai connaître la vie, comment elle fonctionne et pourquoi elle est ainsi. Ce chapitre concerne tout cela. Lorsque tu connaîtras ces choses, tu pourras déterminer de quelle création de ta race tu veux te débarrasser. Car cette troisième partie de notre conversation, ce troisième livre, se rapporte à la construction d'un nouveau monde, la création d'une autre réalité. Vous avez vécu trop longtemps, mes enfants, dans une prison que vous avez vous-même conçue. Il est temps de vous en libérer. Vous avez emprisonné vos cinq émotions naturelles, les avez réprimées et changées en émotions non naturelles, ce qui a entraîné malheur, mort et destruction dans votre monde. Depuis des siècles, sur cette planète, le modèle de comportement est « ne cède pas à tes émotions ». Si tu ressens de la peine, dépasse-la. Si tu te sens en colère, refoule-la. Si tu ressens de l'envie, aie-en honte. Si tu ressens de la peur, passe par-dessus. Si tu ressens de l'amour, contrôle-le, limite-le, garde-le, fuis-le. Fais tout ton possible pour cesser de l'exprimer, complètement, sur le champ, ici même. Il est temps que tu te libères. En vérité, tu as emprisonné ton soi sacré, et il est temps de libérer ton soi. Question. Je commence à être fébrile maintenant. Comment commençons-nous? Où commençons-nous? Réponse. Dans notre brève étude sur la façon dont tout cela s'est dessiné ainsi, retournons à l'époque où votre société s'est réorganisée. C'est alors que les hommes sont devenus l'espèce dominante, puis ont trouvé inconcevant d'exposer les émotions, ou même, dans certains cas, d'en avoir. Question. Qu'entends-tu par « lorsque la société s'est réorganisée » De quoi parle-t-on ici? Réponse. À une époque antérieure de votre histoire, vous avez vécu dans une société matriarcale. Puis, à la suite d'un changement, le patriarcat a émergé. Lorsque vous avez effectué ce changement, vous vous êtes éloigné de l'expression de vos émotions. Vous avez traité de faibles ceux qui s'y adonnaient. C'est au cours de cette période que les mâles ont également inventé le diable et le dieu masculin. Question. Les mâles ont inventé le diable? Réponse. Oui. Satan est essentiellement une invention des hommes. En définitive, toute la société s'y est pliée. Mais le fait de se détourner des émotions et d'inventer un malin faisait partie d'une rébellion masculine contre le matriarcat, cette période durant laquelle les femmes gouvernaient tout à partir de leurs émotions. Elles détenaient l'ensemble des postes gouvernementaux, toutes les positions ayant trait au pouvoir religieux, tous les lieux d'influence dans le commerce, la science, l'enseignement supérieur et la guérison. Question. Quel pouvoir les hommes avaient-ils? Réponse. Aucun. Les hommes devaient justifier leur existence, car ils avaient très peu d'importance au-delà de leur capacité de fertiliser ces œufs femelles et de déplacer des objets lourds. Ils étaient tels des fourmis et des abeilles ouvrières. Ils se chargeaient du lourd travail physique et faisaient en sorte que l'on produisait et que l'on protégeait les enfants. Les hommes mirent des siècles à trouver et à se tailler une place importante dans le tissu de leur société. Des siècles s'écoulèrent avant même que l'on autorise les mâles à participer aux affaires de leur clan, à avoir une voix ou un vote dans les décisions communautaires. Les femmes ne les trouvaient pas suffisamment intelligents pour comprendre ces questions. Question. Dis donc, il est difficile d'imaginer une société quelconque interdisant à toute une classe de gens de voter en se basant tout simplement sur son sexe. Réponse. J'aime ton sens de l'humour à ce propos. Je l'aime vraiment. Puis-je continuer? Question. Je t'en prie. Réponse. D'autres siècles ont passé avant qu'ils puissent vraiment détenir les positions de leadership pour lesquels ils eurent finalement la chance de voter. D'autres postes d'influence et de pouvoir au sein de leur culture leur étaient encore refusés. Question. Tout de même, accordons-leur une chose, lorsque les mâles ont enfin obtenu des positions d'autorité au sein de la société, lorsqu'au moins ils se sont élevés au-dessus de leur position antérieure de faiseurs de bébés et de quasi-esclaves physiques, ils ne se sont jamais vengés des femmes, mais leur ont toujours accordé le respect, le pouvoir et l'influence que tous les humains méritent, sans égard à leur sexe. Réponse. Voilà cet humour qui revient. Question. Oh pardon, suis-je sur la bonne planète? Réponse. Revenons à notre récit. Mais avant de passer à la création du diable, parlons un peu du pouvoir. Car c'est, bien sûr, la source et le fondement de l'invention de Satan. Question. À présent, tu vas souligner le fait que tous les hommes ont tout le pouvoir dans la société actuelle, non? Permets-moi de te devancer et de te dire pourquoi, selon moi, cela s'est produit. Tu as dit qu'au cours de la période matriarcale, les hommes ressemblaient beaucoup à des abeilles ouvrières au service de la reine. Tu as dit aussi qu'ils se chargeaient du difficile travail physique et qu'ils faisaient en sorte que l'on produise et que l'on protège les enfants. Et j'ai eu envie d'ajouter, alors qu'est-ce qui a changé? Ce qu'ils font maintenant? Et je parie que bien des hommes diraient probablement que pas grand-chose n'a vraiment changé, sauf qu'ils ont exigé un prix pour le maintien de leur rôle ingrat. Ils ont vraiment plus de pouvoir. Réponse. En fait, la plus grande part du pouvoir. Question. D'accord, la plus grande part du pouvoir. Mais l'ironie que je constate ici est la suivante. L'homme, tout comme la femme, croit s'occuper des tâches ingrates alors que l'autre a tout le plaisir. Les hommes en veulent aux femmes qui tentent de reprendre une part de leur pouvoir, car ils croient être fichus s'ils font tout ce qu'ils font pour la culture sans avoir au moins le pouvoir qu'il faut pour le faire. Quant aux femmes, elles en veulent aux hommes d'avoir gardé tout le pouvoir et se disent elles-mêmes fichues si elles continuent à faire ce qu'elles font pour la culture en restant privées de pouvoir. Réponse. Ton analyse est correcte. Les hommes, comme les femmes, sont condamnés à répéter leurs propres erreurs dans un cycle sans fin de misère qu'ils se sont infligés à eux-mêmes, jusqu'à ce que les uns et les autres comprennent que la vie n'a rien à voir avec le pouvoir, mais plutôt avec la force, qu'elle n'a rien à voir avec la séparation, mais plutôt avec l'unité. Car c'est dans l'unité qu'existe la force intérieure, et dans la séparation qu'elle se dissipe et laisse à chacun un sentiment de faiblesse et d'impuissance, et par conséquent, d'être aux prises avec une lutte de pouvoir. Je te dis ceci. Guérissez la faille qui vous sépare. Mettez fin à cette illusion de la séparation, et vous reviendrez à la source de votre force intérieure. C'est là que vous trouverez le pouvoir véritable. Le pouvoir de faire quoi que ce soit. Le pouvoir d'être quoi que ce soit. Le pouvoir d'avoir quoi que ce soit. Car le pouvoir de créer provient de la force intérieure qui jaillit de l'unité. Cela s'applique également à ta relation avec ton Dieu et avec ton prochain. Cesse de te considérer comme séparé, et tout le pouvoir véritable, qui origine de la force intérieure de l'unité, sera à toi, en tant que société mondiale et en tant que partie de cet ensemble. Ainsi, tu pourras l'utiliser à ta volonté. Mais rappelle-toi ceci. Le pouvoir provient de la force intérieure. La force intérieure ne provient pas du pouvoir brut. Cela, la majeure partie de l'humanité le comprend à rebours. Sans force intérieure, le pouvoir est une illusion. Sans unité, la force intérieure est un mensonge. Un mensonge qui n'a pas servi la race, mais qui s'est néanmoins incrusté dans votre conscience raciale. Car vous croyez que la force intérieure naît de l'individualité et de l'état de séparation. Et ce n'est tout simplement pas le cas. La cause de votre dysfonction et de votre souffrance provient du fait que vous êtes séparés de Dieu et les uns des autres. Mais la séparation continue de passer pour la force, et votre politique, votre économie et même vos religions ont perpétué ce mensonge. Ce mensonge est pourtant la genèse de toutes les guerres et de toutes les luttes de classe qui mènent à la guerre, de toute l'animosité entre les races et entre les sexes, et de toutes les luttes de pouvoir qui mènent à l'animosité, de toutes les épreuves et les tribulations personnelles et de toutes les luttes internes qui mènent aux tribulations. Mais vous vous accrochez d'une façon tenace à ce mensonge, même si vous savez où il vous mène, même s'il vous a mené jusqu'ici à votre propre destruction. À présent, je te dis ceci. Connais la vérité et la vérité te libérera. il n'y a aucune séparation, ni les uns des autres, ni de Dieu, ni de quoi que ce soit. Cette vérité, je la répéterai à maintes reprises dans ces pages. Cette observation, je la ferai à plusieurs reprises. Agis comme si tu n'étais séparé de rien ni de personne, et tu guériras ton monde demain matin. Voilà le plus grand secret de tous les temps. C'est la réponse que l'homme cherche depuis des millénaires. C'est la solution qu'il a cherchée, la révélation qu'il a appelée de ses prières. Agissez comme si vous n'étiez séparé de rien et vous guérirez le monde. Comprenez qu'il s'agit de pouvoir avec et non de pouvoir sur. Question. Merci. J'ai compris. Alors pour récapituler, les femmes exerçaient d'abord le pouvoir sur les mâles et maintenant c'est le contraire. Et les mâles ont inventé le diable afin d'arracher ce pouvoir des chefs de la tribu ou du clan. Réponse. Oui. Outil. Question. Encore là, rien n'a vraiment changé. Les hommes perpétuent encore cela. Parfois, avant même de faire appel à la raison, ils utilisent la peur. Surtout les hommes grands et forts, ou le pays grand ou fort. Parfois, ce comportement semble vraiment incrusté chez eux. Cela semble génétique. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Le plus fort détient tout le pouvoir. Réponse. Oui, c'est ainsi depuis l'abolition du matriarcat. Question. Comment est-ce arrivé ? Réponse. C'est ce que raconte cette courte histoire. Question. Alors poursuis, s'il te plaît. Réponse. Ce que les hommes ont eu à faire pour prendre le contrôle durant la période matriarcale, ce n'était pas de convaincre les femmes de leur accorder plus de pouvoir sur leur vie, mais de convaincre d'autres hommes. Après tout, la vie était douce, et les hommes auraient pu vivre un plus mauvais sort que de passer leur journée à se valoriser par le travail physique pour ensuite faire l'amour. Alors, il ne fut pas facile pour les hommes sans pouvoir d'en convaincre d'autres sans pouvoir d'acquérir du pouvoir. Jusqu'à ce qu'ils découvrent la peur. La peur est la seule chose avec laquelle les femmes n'avaient pas compté. Elle a commencé, cette peur, par des germes de doute semés par les plus mécontents parmi les mâles. C'était habituellement les moins désirables, ceux qui n'étaient ni musclés ni parés, et par conséquent, ceux auxquels les femmes accordaient le moins d'attention. Question. Et je parie que, parce qu'il en était ainsi, leurs plaintes étaient considérées comme des cris de rage provenant de leur frustration sexuelle. Réponse. C'est juste. Mais les hommes mécontents durent utiliser le seul outil qu'ils connaissaient. Ils cherchèrent donc à cultiver la peur à partir des germes du doute. Et si les femmes avaient tort ? Demandèrent-ils. Et si leur façon de diriger le monde n'était pas la meilleure ? Et si elles étaient en train de mener la société entière, toute la race, vers un anéantissement sûr et certain ? Voilà une réalité que bien des hommes ne pouvaient imaginer. Après tout, les femmes n'étaient-elles pas en communication directe avec la déesse ? N'étaient-elles pas, en fait, des répliques physiques exactes de la déesse ? Et la déesse n'était-elle pas bonne ? L'enseignement s'avéra si puissant, si étendu, que les hommes n'eurent d'autre choix que d'inventer un diable, un Satan, pour contrer la bonté illimitée de la grande mère imaginée et adorée par les adeptes du matriarcat. Question. Comment sont-ils arrivés à convaincre qui que ce soit de l'existence d'un malin ? Réponse. L'unique chose que toute leur société comprenait, c'était la théorie de la pomme pourrie. Même les femmes voyaient et savaient par expérience que certains enfants devenaient tout simplement mauvais, peu importe ce qu'ils faisaient. Surtout, comme chacun le savait, les enfants mâles, tout simplement impossibles à maîtriser. Alors on a créé un mythe. Un jour, disait le mythe, la grande mère, la déesse des déesses, a engendré un enfant qui se trouva ne pas être bon. Malgré toutes les tentatives de sa mère, l'enfant n'était pas bon. Finalement, il se battit contre sa mère pour lui arracher son trône. C'en était trop, même pour une mère remplie d'amour et de pardon. Le garçon fut banni à jamais, mais continua d'apparaître sous d'habiles déguisements et costumes, se faisant même parfois passer pour la grande mère elle-même. Ce mythe amena les hommes à se demander « Comment savons-nous que la déesse que nous adorons est bel et bien une déesse ? C'est peut-être ce mauvais enfant qui a maintenant grandi, qui veut nous tromper ?» Par ce procédé, les hommes incitèrent d'autres hommes à s'inquiéter, puis à se mettre en colère du fait que les femmes ne prenaient pas leurs inquiétudes au sérieux, et, enfin, à se rebeller. C'est ainsi que fut créé l'être qu'à présent vous appelez Satan. Il ne fut pas difficile d'élaborer un mythe autour d'un mauvais enfant, ni de convaincre les femmes du clan de la possibilité de l'existence d'une telle créature. Il ne fut pas difficile non plus d'amener quiconque à accepter que le mauvais enfant était mâle. Les mâles n'étaient-ils pas du sexe inférieur ? Ce stratagème fut utilisé pour créer une controverse mythologique. Si le mauvais enfant était mâle, si le malin était masculin, qui pourrait le vaincre ? Sûrement pas une déesse féminine, car dire habilement les hommes, en matière de sagesse et d'intuition, de clarté et de compassion, de planification et de réflexion, personne ne doutait de la supériorité féminine. Mais en matière de force brute, n'avait-on pas besoin d'un mâle ? Auparavant, selon la mythologie de la déesse, les mâles n'étaient que des consorts, des compagnons des femmes qui jouaient un rôle de serviteurs et comblaient le robuste appétit de célébration charnelle de leur magnifique déesse. Mais à présent, il fallait un mâle qui pourrait faire davantage, un mâle qui pourrait également protéger la déesse et défaire l'ennemi. Cette transformation ne se produisit pas du jour au lendemain, mais s'étala sur de nombreuses années. Graduellement, très graduellement, les sociétés commencèrent, dans leur mythologie spirituelle, à considérer le consort mâle comme le protecteur mâle, car maintenant qu'il y avait quelqu'un pour protéger la déesse, un tel protecteur était clairement nécessaire. Passer de mâle protecteur à mâle partenaire égal, maintenant debout aux côtés de la déesse, ne fut pas un saut majeur. Le dieu mâle fut créé, et pendant un certain temps, dieu et déesse gouvernèrent ensemble dans la mythologie. Puis, graduellement encore, on accorda de plus grands rôles aux dieux. Le besoin de protection et de force, peu à peu, remplaça le besoin de sagesse et d'amour. Une nouvelle sorte d'amour naquit dans ces mythologies, un amour qui protégeait par la force brute. Mais cet amour convoitait également ce qu'il protégeait. Il était jaloux de ses déesses. Il ne servait plus seulement leur appétit féminin, mais se battait et mourait pour elles. Surgirent alors des mythes sur des dieux d'un pouvoir énorme, qui se querellaient, se battaient pour des déesses d'une indicible beauté. Ainsi naquit le dieu jaloux. Question. C'est fascinant. Réponse. Attends. Nous arrivons à la fin, mais reste un court passage. Avant longtemps, la jalousie des dieux ne fut plus limitée aux déesses, mais s'étendit à toutes les créations de tous les mondes. Ces dieux jaloux exigeaient qu'on aime Dieu et aucun autre, sinon... Puisque les mâles étaient l'espèce la plus puissante et que les dieux étaient les plus puissants des mâles, cette nouvelle mythologie laissait peu de place à l'argumentation. Surgirent des histoires sur des gens qui avaient discuté et perdu. Le dieu courroucé était né. Bientôt, toute l'idée de déité fut renversée. Au lieu d'être la source de tout amour, elle devint la source de toute peur. Un modèle d'amour largement féminin, l'amour infiniment tolérant d'une mère pour son enfant et même l'amour d'une femme pour son homme pas très brillant, mais après tout utile, fut remplacé par l'amour jaloux et courroucé d'un dieu exigeant et intolérant qui ne consentit à aucune interférence, ne permit aucune insouciance, n'ignora aucune offense. Le sourire amusé de la déesse, éprouvant l'amour sans limite et se soumettant doucement aux lois de la nature, fut remplacé par la contenance pas très amusée du dieu proclamant son pouvoir sur les lois de la nature et limitant à jamais l'amour. Voilà le dieu que vous adorez aujourd'hui. Et c'est ainsi que vous en êtes arrivé là.